Vous êtes sur RTL.
Les raisons du meurtre de ce contrôleur aérien ce matin restent très floues. L'homme de 34 ans a reçu au moins 3 coups de couteau alors qu'il s'apprêtait à rejoindre son poste de travail tout en haut de la tour de contrôle. Un endroit, vous l'imaginez, ultra sécurisé où l'on ne rentre qu'avec des badges magnétiques personnalisés. Et c'est justement sur ces badges que se porte actuellement tout le travail des enquêteurs.
Bonsoir. Sur les traces d'un fugitif vraiment pas ordinaire, le Joker, un tueur méticuleux qui a organisé sa disparition dans le moindre détail à la façon d'un macabre ballet. Cela fait presque 10 ans que Karim Wali, un contrôleur aérien, aujourd'hui âgé de 44 ans, s'est évaporé. Soupçonné d'avoir sauvagement assassiné à coups de hache, le 27 avril 2011, le chef de la tour de contrôle de l'aéroport Bâle-Mulhouse-Fribourg, au 11e étage du bâtiment. Un meurtre tout d'abord analysé comme le résultat d'une pulsion paranoïaque, mais qui était peut-être, à y regarder de plus près, le prélude à une action de plus grande envergure, prendre, pourquoi pas, le contrôle ce jour-là du trafic aérien. Quoi qu'il en soit, le crime avait été longuement mûri, préparé, élaboré, afin qu'on ne puisse jamais retrouver son auteur. Karim Wali a ainsi réussi jusqu'à ce jour à échapper à toutes les polices, françaises bien sûr, mais aussi internationales. Nous verrons avec nos invités ce soir dans l'heure du crime comment un homme seul, inconnu de la justice, sans expérience criminelle, sans réseau de soutien, a pu ainsi disparaître pour sans doute refaire sa vie en Asie, dernier domicile connu de ce fuyard qui voue une admiration pour le Joker, le personnage qui incarne le mal dans Batman. Karim Wali est aujourd'hui le fugitif français le plus célèbre, avec un certain Xavier Dupont de Ligonnès. Coïncidence sordide, les deux hommes ont disparu la même année à seulement 6 jours d'intervalle. Un fugitif nommé Karim Wali sur la trace du Joker. L'enquête ce soir dans l'heure du crime sur RTL. On se retrouve tout de suite.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. 20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir, dans l'heure du crime, l'histoire d'un fugitif hors norme, Karim Wali, un contrôleur aérien devenu assassin présumé au printemps 2011 dans un lieu hautement sécurisé, la tour de contrôle d'un aéroport international. Ce mercredi 27 avril 2011, Mathieu L., contrôleur aérien à l'aéroport Bâle-Mulhouse-Fribourg, se dirige vers le 11e étage de la tour de contrôle pour aller voir son collègue, le chef de la tour de contrôle, Jean Meyer. Il est 7h50 et les premiers avions se posent sur les pistes. De nombreux décollages sont prévus tout au long de la matinée. Au pied d'un escalier métallique qui mène au sommet de la tour, l'employé aperçoit soudain un corps dans une mare de sang. Un homme qui a reçu plusieurs coups à l'abdomen, au thorax, à l'épaule, à la tête et au cou. Les plaies sont très larges, causées par une arme blanche d'une trentaine de centimètres qui pourrait être un hachoir ou une machette. L'agresseur n'a laissé aucune chance à sa victime. Il s'agit bien de son supérieur, le chef de la tour de contrôle, Jean Meyer, un père de famille de 34 ans, un homme tranquille qui n'avait jamais eu maille à partir avec qui que ce soit. La police judiciaire de Mulhouse arrive très rapidement sur place. Vu la nature sensible du lieu du crime, une zone très sécurisée dans laquelle ne sont admis que les personnels autorisés, les soupçons se portent immédiatement sur les personnels présents au moment de la tragédie. Les vérifications sont immédiates. Il s'avère qu'une poignée de contrôleurs ont badgé ce matin-là pour accéder à la tour. À partir du 8e étage, l'accès est encore plus restreint. Il faut badger à 2 reprises et disposer d'une clé spéciale pour pouvoir emprunter l'ascenseur qui mène tout en haut. 2 agents de sécurité décrivent les personnes qu'ils ont vues passer. Tout le monde répond à l'appel, sauf un contrôleur portant le nom de Karim Wali. Il est introuvable. Détail curieux, il a même abandonné au 8e étage sa veste, un caban de couleur sombre dont les poches sont vides, à l'exception d'une forte somme d'argent, 900 euros en espèces. En moins d'une heure, Karim Wali, 33 ans, devient ainsi le suspect numéro 1 du meurtre de la tour de contrôle. L'homme n'avait rien à faire là, il était en arrêt maladie depuis près de 3 mois. Il souffrait de troubles psychologique permanent, un début de délire de persécution. Il estimait qu'on lui en voulait en raison de ses origines algériennes, ce qui aurait bloqué son ascension professionnelle. La direction avait préféré le renvoyer chez lui afin qu'il puisse se faire soigner et consulter un psychiatre. Malgré ce congé maladie, les badges de Karim Ouali, ses accès au complexe de 450 hectares de l'aéroport et au Saint-Dessin, la tour de contrôle, ces badges n'ont pas été désactivés. Les enquêteurs pensent immédiatement à une vengeance, à un coup de folie. Bonsoir Lionel Feuerstein.
Bonsoir.
Chef de service adjoint, enquête et reportage sur France TV. Vous avez suivi de près toute cette affaire, hein. Il faut dire que la scène de crime, finalement, elle est assez limpide. C'est un meurtre qui paraît même signé. On connaît presque le coupable quasiment dans les minutes qui suivent. Que penser de cette scène de crime tout à fait hallucinante? Je crois que c'est une première au sein même d'un aéroport et dans une tour de contrôle, un crime à huis clos quasiment.
C'est vrai que le matin, Karim Ouali arrive avec une voiture de location, se gare devant l'aéroport et va badger sans difficulté. Il est 7h35 et on va retrouver, il en ressort à 7h49.
49, oui, exactement.
Précisément, et on va retrouver assez vite le corps sans vie de Jean Meyer. Mmh. La question qu'on va sans doute se poser durant cette émission-là, c'est est-ce qu'il voulait s'en prendre à Jean Meyer? Alors, ou avait-il d'autres desseins?
C'est exactement la question que j'allais vous poser. Est-ce que Jean Meyer, finalement, c'est la cible?
Alors, c'est une interrogation à laquelle on n'a pas de réponse. Si ce n'est que Jean Meyer, normalement, n'aurait pas dû venir à cette heure-ci sur place. Il devait prendre son service à 8h du matin, il était en avance. Ce qui pose la question, est-ce que c'était vraiment sa cible? On sait que Jean Meyer l'avait formé, n'avait pas eu de problème directement avec lui, il avait eu des problèmes avec d'autres personnes au sein de l'équipe, mais on ignore encore si c'était vraiment la bonne cible.
Si c'était vraiment la bonne cible. Toujours dans le studio ce soir de l'heure du crime, Maître Damien Legrand, bonsoir.
Bonsoir Jean-François.
Vous êtes l'avocat de la famille Meyer, hein, l'avocat de la veuve de Jean Meyer. Dites-nous en quelques mots, qui est Jean Meyer finalement? Apparemment, je l'ai dit, c'est un homme tranquille, c'est ça?
Jean Meyer, c'est un homme sans histoire, qui est âgé de 34 ans, à l'époque des faits, qui est marié, qui a une jeune enfant de 4 ans, qui fait son travail de contrôleur aérien du mieux qu'il le peut et qui effectivement ce matin-là est un petit peu en avance sur son lieu de travail. Il n'était pas prévu qu'il lui soit arrivé aussitôt. C'est la raison pour laquelle effectivement nous avons toujours pensé que compte tenu du profil de Jean Meyer ainsi que de celui de son agresseur, ça n'était pas la cible de celui qui l'a tué, mais c'était sans doute celui qui l'a empêché de commettre quelque chose de beaucoup plus grave.
Alors c'est ce que disait Lionel Feuerstein à l'instant, c'est que finalement il y avait une autre cible, un autre objectif pour Karim Ouali, d'après vous?
Oui, il y a quelques mois de cela, la famille a demandé à ce que l'on accorde à Jean Meyer, à titre posthume, la Légion d'honneur. Ça a été refusé parce que nous l'avons fait un peu trop tard. Mais les éléments de cette enquête, objectivement, démontrent que la cible n'était sans doute pas Jean Meyer. D'abord parce que, on l'a dit tout à l'heure, le crime se situe dans un endroit très stratégique. Je rappelle qu'il suffit de franchir une porte avant d'accéder à la tour de contrôle, c'est-à-dire l'outil opérationnel qui permettrait par exemple de détourner des avions. Et puis ensuite, évidemment, parce qu'il y a une préparation extrêmement minutieuse à la fois dans la commission de l'acte criminel et dans la fuite, qui n'est pas du tout compatible avec un acte isolé, mais qui laisse au contraire supposer quelque chose de beaucoup plus grande envergure.
Absolument, puis, d'autant plus que, il faut le dire, Karim Ouali avait tout à fait les moyens de détourner un avion, ou en tout cas même de le faire écraser avec ses connaissances techniques, cela suffisait. En quelques mots, Lionel Feuerstein, parce qu'on va y revenir longuement, dites-nous en quelques mots de quoi souffre à l'époque Karim Ouali, pourquoi finalement on l'a envoyé en congé maladie comme cela?
Écoutez, il était en congé maladie assez vite à son arrivée. Ce qu'il faut savoir, c'est que Karim Wali était très perturbé par la mort de son père en 2006. Il a commencé à s'isoler, se couper un peu de sa famille. C'est ce qu'ont rapporté d'ailleurs ses proches aux enquêteurs. Il s'est coupé de ses amis. Il vivait dans son monde dont on va parler.
On va découvrir cette espèce de caverne.
Assez mystique. Et il a pris son service en octobre 2010. Il est arrêté en décembre 2010, donc assez vite. Il se sent persécuté par ses collègues. Et notamment, il souffre un petit peu de brimades racistes. En tout cas, c'est ce qu'il dit.
On lui reproche d'être algérien, etc.
On lui reproche d'être algérien, on lui reproche ses origines. Donc il ne s'en sent pas bien dans cet univers-là et il va se faire arrêter, il va être pour dépression. Nous, on a contacté lors de notre enquête un des médecins qui l'a traité, disait que face à lui, et on reviendra sur est-il fou ou pas, ou est-il une certaine forme de folie, face à lui, il avait quelqu'un d'assez posé, d'assez calme, qui évoquait ses problèmes et ses difficultés avec ses autres collègues, mais qui était totalement correct dans ses réponses et dans son comportement.
Fou ou pas, Karim Wali est dans la nature. Tout le désigne déjà comme l'auteur très probable du meurtre. Il se serait enfui après le crime à bord d'une voiture blanche. Il ne devrait pas aller bien loin, peut-être d'ailleurs est-il tout simplement retourné chez lui. Karim Wali, surnommé le Joker, un meurtre dans la tour de contrôle, l'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL. On se retrouve tout de suite.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. 20h-21h, l'heure du crime sur RTL.
Heure du crime, consacrée ce soir à la cavale sans fin de Karim Wali, contrôleur aérien suspecté d'avoir tué son supérieur à l'aéroport Bâle-Mulhouse-Fribourg le 27 avril 2011. La police cherche à le localiser le plus rapidement possible. Peu après le crime, la police judiciaire de Mulhouse débarque au domicile de Karim Wali, à Saint-Louis, commune frontalière avec la Suisse. Le contrôleur aérien, sorti parmi les premiers de l'École nationale de l'aviation civile en 1999, vit seul et c'est ici qu'il a passé son congé maladie. Pas de Wali sur place, mais les enquêteurs déboulent dans ce qui s'apparente à un capharnaüm. Tellement d'objets et de paperasses ont été accumulés par le locataire qu'on ne distingue même plus le sol. L'ambiance qui règne dans le logement, dont les volets ne semblent pas avoir été ouverts depuis longtemps, est des plus étranges, ésotériques. Un crucifix à l'envers autour d'une statue de Bouddha, des cartes de tarot disposées de façon précise, le jugement, le pape, la mort et le mat. Mais les découvertes intrigantes ne s'arrêtent pas là. Sur un disque dur d'ordinateur, la police découvre plusieurs exemplaires d'un manuscrit intitulé Avataro. La lecture est des plus confuses. C'est un fatras de propos complotistes à fort parfum antisémite. Un certain Abraham y converse avec un certain avatar. La conversation porte sur la religion, l'enfer, le diable et un complot mondial. Crésus et Ben Laden sont cités, ainsi que les attentats du 11 septembre. L'aéroport Bâle-Mulhouse-Fribourg apparaît aussi au fil des pages. On y trouve les adresses de tous les contrôleurs aériens qualifiés de « diablotins androgynes ». De toute évidence, Karim Wali avait l'intention de s'en prendre au personnel de l'aéroport, peut-être d'agresser plusieurs personnes. Dans une enveloppe qui porte l'effigie du Joker, le personnage maléfique des aventures de Batman, dans cette enveloppe, le contrôleur a laissé un mot. Il écrit « Ce qui s'est passé à la tour de contrôle était inévitable ». Ses collègues sont traités de minables lâches qui sont de mauvaise foi et sont de faux ingénieurs. Wali a d'ailleurs adressé à 32 de ses collègues une lettre de menace signée Ante Abraham. Tous ses personnels sont alors placés sous protection policière le temps que Karim Wali soit retrouvé. Lionel Feuerstein, chef de service adjoint enquête et reportage à France TV. Vous avez suivi l'affaire, vous connaissez parfaitement le dossier. Racontez-nous, que disent ces menaces? Alors, il y a tout un fatras
de feuilles qui sont retrouvées, de discours, ce fameux livre qui, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, tellement il est ésotérique et obscur. Mais il y a aussi cette lettre que
Carimoli
adresse le matin même, c'est ça?
Le matin même, à une dizaine, peut-être 30, une vingtaine.
34, je crois.
De collègues. Et il dit ces mots, alors là, on a la copie, hein, sous les yeux. Désolé de ne pas pouvoir remettre en main propre ce courrier, mais malheureusement, décapiter 32 personnes dans la même journée n'est pas possible. Donc il revendique son crime. Mmh. Ça fait un peu froid dans le dos parce qu'on se dit qu'a priori, il aurait aimé faire encore plus de victimes. Il n'y a pas que Jean Meyer. Et puis, dans ce même courrier, il y a des délires complets, notamment un passage où il dit qu'il aurait badigeonné de son sperme la vaisselle employée dans son service. Vous vous souviendrez de moi comme ça. Enfin, ça va un peu partout. Mais en même temps, il y a cette revendication très concrète de ce qu'il a fait. Et il ne se serait sans doute pas arrêté au meurtre de Jean Meyer.
Oui, très certainement, et surtout quand on place cette déclaration en miroir avec les événements d'aujourd'hui, elle prend une toute autre résonance. Hein, voilà, alors à l'époque, évidemment, le terrorisme ne va pas être retenu, hein, c'est ça?
Non.
À l'époque, Maître Damien Legrand, hein, vous êtes l'avocat de la famille, à l'époque, on ne parle pas de terrorisme.
Non, c'est une piste qui n'est pas même évoquée au début de cette affaire, comme elle aurait pu être effectivement évoquée aujourd'hui, compte tenu des événements récents, évidemment.
Toutes ces découvertes, Maître, dans cet appartement, qui est un véritable capharnaüm, ça renforce cette conviction que vous avez, vous, avec la famille, hein, et depuis le début, de dire il y avait une action beaucoup plus large qui était projetée, etc. C'est bien ça?
Oui, bien sûr, tout le processus découvert par les enquêteurs immédiatement après les faits, d'ailleurs, que ce soit cette appartement que les enquêteurs vont apparenter à un véritable outil d'impression. Il y a des centaines de milliers de pages qui sont découvertes sur cet ouvrage où Karim Ouali s'apparente à un personnage, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Avatar, qui est en réalité l'envoyé de Dieu sur Terre, hein, qui converse avec Abraham et puis qui évoque un certain nombre d'événements qui vont avoir lieu et dont il sera l'auteur essentiel puisque c'est lui l'envoyé. Et donc, nécessairement, on suppose raisonnablement que les actes qu'il s'apprêtait à commettre sont d'une dimension beaucoup plus importante que le seul drame perpétré à l'encontre de Jean Meyer. Et puis après, il y a tout ce qu'on va découvrir, c'est-à-dire le processus extrêmement travaillé, réfléchi, de brouillage de pistes pour éviter que les enquêteurs ne puissent retrouver sa trace immédiatement après les faits.
Est-ce qu'on peut imaginer, je vous pose la question à tous les deux, hein, Lionel Feuerstein et puis Maître Damien Legrand, est-ce qu'on peut imaginer que finalement ce décor soit un décor de carton-pâte, si je puis dire, une espèce de mise en scène gigantesque pour cacher un crime qui aurait été horrible? Est-ce qu'on peut l'imaginer? On verra qu'il va brouiller très souvent les pistes, etc. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il est comme ça construit quelque chose qui est sorti de son imagination pour envoyer les policiers ou envoyer l'enquête sur d'autres pistes?
Alors ce qui est étonnant dans cette affaire-là, effectivement, c'est la folie de ses actes, la folie de ses écrits et sa fuite. Je pense qu'on va aborder sa fuite, qui est, elle, très très bien organisée. Et on sait à quel point c'est compliqué pour un truand, un bandit, d'être en fuite comme ça, notamment à l'étranger. Donc c'est vrai que sur ces deux aspects-là, et c'est ce qui est intéressant dans ce dossier-là aussi, c'est qu'on a quelqu'un qui semble fou et pourtant qui est très très cohérent.
C'est effectivement une double lecture du personnage qui va être permanente. Hein, avec lui, on va toujours un petit peu se perdre, etc. Alors là, la PJ est à l'œuvre, hein, Lionel Feuerstein. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces éléments? Qu'est-ce qu'ils pensent à ce moment-là? Ils ont affaire à qui?
Déjà, on peut peut-être rappeler un petit peu comment Karim Ouali s'est organisé pour échapper justement à une identité. Identification, à des recherches, à une arrestation. C'est-à-dire que il l'a pensé des mois avant, en retirant méticuleusement des sommes d'argent importantes.
On va y venir dans cette fuite qui va s'organiser effectivement pour Karim Ouali et qui va durer de manière presque indéfinie, puisqu'aujourd'hui encore, 10 ans après les faits quasiment, on est toujours en train de le rechercher.
Un homme enfermé dans ses fantasmes et peut-être sa folie. Toutes ses découvertes le laissent croire, à cette exception près, que cette cavale qui vient de démarrer ne souffre d'aucune imprécision. Le chef d'orchestre Karim Ouali semble avoir tout prévu. Karim Ouali, la fuite du Joker, 10 ans de cavale. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. RTL. 20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Heure du crime consacrée ce soir à la cavale de Karim Ouali. Après avoir tué le responsable de la tour de contrôle de l'aéroport Bâle-Mulhouse, il s'est évanoui dans la nature et commence à faire tourner les policiers en rond. Karim Ouali s'est enfui après le meurtre à bord d'une Peugeot 107 blanche de location. Les images de vidéosurveillance sont formelles, c'est cette voiture que les forces de l'ordre recherchent. Sans savoir dans un premier temps que ce véhicule est un leurre destiné à brouiller les pistes. Cette voiture sera retrouvée quelque temps plus tard sur un parking vide de tout occupant. Ouali reste invisible. Il utilise certainement un autre véhicule, mais qui pour l'instant n'est pas identifié. En fait, le contrôleur a acquis quelques jours auparavant, sous un faux nom et en présentant une fausse pièce d'identité, une Volkswagen Polo de couleur verte. Ce véhicule n'est pas tout de suite identifié. L'assassin présumé de la tour de contrôle a pris de l'avance sur les enquêteurs. Une demi-heure ou une heure d'avance suffisent pour prendre le large. Karim Ouali a décidément tout prévu. Il a ainsi retiré 25 000 euros en liquide. Il a aussi pris soin d'adresser en Suisse, par une société de transport, un colis contenant un téléphone portable. L'appareil est allumé, actif et facilement géolocalisable. Pendant 2 ou 3 jours, les enquêteurs vont pister ce signal qui se déplace en Suisse, persuadés qu'ils suivent à la trace Karim Ouali. Quand le téléphone portable arrive enfin à destination, ils s'aperçoivent que le contrôleur s'est joué d'eux. Un nouveau leurre destiné à les éloigner de sa véritable destination. Ouali, très astucieux, a ainsi réussi la première partie de sa cavale, puis a disparu. La police judiciaire de Mulhouse transmet le dossier à la Brigade nationale de recherche des fugitifs, la BNRF, une unité de la direction centrale de la police judiciaire, habituée à ce genre de dossier aux ramifications souvent internationales. 7 mois après le crime, la Volkswagen Polo verte est retrouvée à Bron, dans la banlieue de Lyon. À bord, la police découvre l'arme qui a servi à tuer Jean Meyer, une hachette de fabrication artisanale. Il y a aussi un livre signé Jean Laborie et intitulé « Éloge de la fuite », des cartes routières d'Europe et une carte à jouer portant l'effigie du Joker. Lionel Feuerstein, on est bien loin ici du portrait d'un paranoïaque délirant, tant tout semble millimétré.
Oui, c'est vrai que c'est la dernière trace qu'on a de lui, le dernier élément matériel, c'est ce ticket de caisse d'Auchan qui a été fait dans la banlieue parisienne, qui date de 9h du matin.
Banlieue parisienne, donc.
En banlieue lyonnaise, voilà. À 9h du matin. Et après, on a totalement perdu sa trace. Jusqu'en 2019 où on a eu une information venant d'Asie.
Oui, et information qui sera capitale et évidemment on va beaucoup en parler dans cette heure du crime.
Mais c'est vrai que c'est assez étonnant et dans ce véhicule on retrouve plein de choses. Dites-nous
parce que c'est la dernière trace là, physique.
C'est assez étonnant. On retrouve un rasoir, de la crème pour se raser sans doute la tête. On retrouve des jouets aussi que faisaient ces jouets dans la voiture. On retrouve évidemment l'arme du crime, c'est vrai qu'on a retrouvé, je crois, du sang de Jean Meyer. On retrouve des Timberland, on retrouve aussi ce sac qu'il a acheté le matin, un grand sac à dos. On retrouve une carte sur le ticket de caisse, pardon, pour être précis, et une carte effectivement européenne. Et il y a aussi, je crois, les tickets d'un Francfort Hong Kong en date du 27. Qui n'a pas été utilisé. Alors, visiblement ce jour-là, en tout cas.
Voilà, ce fameux billet d'avion qui est, de toute évidence, destiné à brouiller là aussi les pistes. À nouveau un leurre, puisqu'il est spécialiste des fausses informations. Maître Damien Legrand, est-ce qu'il utilise déjà une fausse identité à ce moment-là ? Comment est-ce qu'il se débrouille ?
D'abord, il a changé de nom, officiellement, quelques
mois.
Alors,
allez-y, parce que ça, c'est intéressant.
Il se fait appeler notamment dans cette logique de contestation du personnage qu'il était auparavant et dans sa volonté d'en forger un nouveau. Il se fait appeler non plus Karim, mais Aderfi Wali. Ça, c'est un changement officiel. Et puis, au-delà de ça, bien évidemment, on l'a dit, il y a beaucoup d'éléments qui témoignent non seulement de ce qu'on a évoqué à l'instant, c'est-à-dire le fait de vouloir échapper aux recherches éventuelles, mais on va constater qu'il y avait aussi une réelle préméditation des actes qui s'apprêtait à commettre. Préméditation, c'est toute l'ambiguïté du personnage qu'on décrit depuis tout à l'heure. Il y a à la fois parfois des actions totalement irraisonnées. Et puis, il y a d'autres procédés parfaitement réfléchis. Je pense en particulier à des techniques de téléphonie qu'il avait adoptées quelques mois avant.
Alors, allez-y, c'est quoi? C'est le spoofing, c'est ça? Expliquez-nous comment ça marche.
En fait, il anonymise tout simplement ses conversations téléphoniques et la possibilité pour les enquêteurs de le géolocaliser. Et c'est ce qui va, bien sûr, entraver aussi l'action des enquêteurs, puisque comme il est immédiatement identifié aux alentours de 8h du matin, compte tenu des localisations des badges qu'on a évoqués tout à l'heure, les enquêteurs vont très vite essayer de travailler sur les premiers éléments d'une enquête criminelle, par exemple notamment la téléphonie, et vont constater avec effroi qu'il utilise une technique très avancée qui est utilisée par les malfaiteurs, qu'on appelle le spoofing, l'ID calling, c'est-à-dire que vous anonymisez totalement les données de votre téléphone portable, ce qui rend les recherches presque impossibles, et notamment les recherches en termes de géolocalisation.
Donc ça, c'est effectivement une technique qui est employée finalement par la grande délinquance, le plus souvent, même les milieux où il y a des truands, etc. Est-ce qu'on sait, Lionel Feuerstein, quelles sont les pistes pour savoir où il a pu aller? Pourquoi déjà est-il parti sur Lyon? Est-ce qu'on a une idée de ça?
Alors sur Lyon, non. Je pense qu'on n'en a pas.
Il y a aussi un grand aéroport à Lyon.
Voilà, il y a un très grand aéroport. Il y a la proximité de la Suisse, l'Italie, on n'est pas très loin. Enfin, on sait que Karim Wali était un grand voyageur. Il parlait souvent de l'Amérique du Sud. Il adorait l'Asie également. Il voyageait beaucoup, notamment avec ses ex-petites amies qui ont été entendues par les enquêteurs. Il en parlait souvent. Donc on ne sait pas pourquoi il est allé vers Lyon, mais on va le retrouver un peu plus tard, bien loin en tout cas de l'Europe.
Oui, on va le retrouver très très loin de l'Europe. Un petit mot là, vous dites il a des amis, il a effectivement, je crois que c'est une ex-petite amie qui est entendue par les policiers. Que dit cet entourage qui l'a connu de manière assez récente?
C'est un entourage qui décrit...
Maître Damien Legrand, je rappelle que vous êtes l'avocat de la famille Meyer, l'avocat de la victime.
C'est un entourage qui décrit ce qu'on est en train de décrire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire l'évolution du personnage qui est passé d'un individu prometteur, manifestement intelligent, à un individu qui s'est totalement perdu dans des délires paranoïaques, avec la construction d'une identité parallèle à laquelle il croit profondément, d'une histoire totalement construite, à telle enseigne qu'il vit comme étant, je le rappelle, l'envoyé de Dieu sur Terre, chargé d'accomplir les desseins que lui-même a déterminés dans cet écrit Avataro. L'entourage décrit une sorte de point de non-retour, d'une évolution qui, sans cesse, est empreinte de ce sentiment qu'il a d'être rejeté, d'être persécuté à raison de ses origines, sans même d'ailleurs que, semble-t-il, ça ne soit réellement motivé par des raisons objectives. Il n'est pas du tout démontré qu'il ait jamais fait l'objet de persécution, notamment en raison de son identité, mais c'est ce que la famille décrit, un processus long qui fait qu'on passe d'un individu plutôt raisonné à un individu totalement délirant.
Ce qui est assez étonnant tout de même, c'est que moi j'ai eu en ligne des amis de Karim Wali qui me le décrivaient comme un garçon totalement charmant, qui était très sympa, très cultivé, qui savait beaucoup de choses sur le cinéma, sur la littérature. Voilà, il passait des bons moments, ils m'ont décrit des bons moments. J'ai aussi une ancienne petite amie au téléphone de Karim Wali, pareil, qui disait qu'il y avait ce paradoxe entre quelqu'un de très séduisant, de très beau, parce que c'était quelqu'un de très beau, et en même temps un délire mystique qui lui faisait peur.
Karim Wali, l'homme
différentes identités, alias le Joker, comme il aimerait sans doute être présenté, est devenu un fantôme. Impossible de savoir quel chemin a emprunté l'assassin présumé de la tour de contrôle. Il a pris tout le monde de court, dispose d'un petit matelas financier et semble avoir depuis des mois tout prévu. Karim Ouali, la cavale du Joker, se cacherait-il au bout du monde? C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. À tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Ce soir, dans l'heure du crime, le dossier Karim Ouali. Après l'assassinat du chef de la tour de contrôle de l'aéroport Balmulhouse, cet homme a disparu. Impossible à rattraper en dépit des moyens déployés. Les mois défilent et Karim Ouali semble avoir effacé derrière lui toute trace. Aucune piste ne permet de remonter jusqu'à cet homme dont le visage s'affiche dans les commissariats et les gendarmeries. En 2016, 5 ans après le meurtre, Karim Ouali est placé par Europol sur sa liste des criminels les plus recherchés du continent. Son signalement est diffusé. Un Français né le 21 mai 1976 dans le 17e arrondissement de Paris. Il mesure 1m79 et porte une série de tatouages tribaux détaillés dans la vie de recherche. Les photos les plus récentes le montrent portant une casquette sur la tête. L'homme fait également l'objet d'une notice rouge d'Interpol qui préconise une arrestation immédiate. Malgré cette diffusion, Karim Ouali ne refait pas surface. Aucun témoignage digne de ce nom ne permet de le localiser, volatiliser. 7 ans après le crime de la tour de contrôle, les autorités françaises, le parquet de Mulhouse et la brigade des fugitifs tombent des nues en apprenant que la présence de Karim Ouali a été signalée à plusieurs reprises sur le continent asiatique. Il aurait transité par Hong Kong dans les semaines suivant le meurtre. Au mois de mai 2011, il aurait été repéré dans l'enclave chinoise de Macao. Le Français aurait fréquemment voyagé entre les nombreuses îles de cette partie du monde. Jusque-là, la France n'avait pas été alertée de cette présence. Cerise sur le gâteau, le suspect numéro 1 a été interpellé puis incarcéré en août 2014 dans la région. Suite, semble-t-il, à une demande de permis de séjour. La justice française n'a jamais été prévenue de cette arrestation. Ouali a été depuis libéré et il s'est évanoui dans la nature. Toutes les hypothèses sont désormais ouvertes concernant Karim Ouali. On le soupçonne d'avoir changé de visage. Des informations indiquent qu'il aurait changé de nom, de vie, vivrait avec une femme et aurait un petit garçon baptisé Elias. La dernière trace connue de Karim Ouali remonte en Chine en 2016. Devant la famille de la victime, partie civile dans ce dossier. La juge concède que Ouali est très intelligent et a une longueur d'avance sur les enquêteurs. Longueur d'avance prise dans les minutes suivant le meurtre et toujours conservée depuis. Maître Damien Legrand, vous êtes ce soir l'un des invités de l'heure du crime sur RTL. Je rappelle que vous êtes l'avocat de la famille Meyer, la famille de Jean Meyer, la victime dans cette affaire. Alors là, il faut nous expliquer parce que personnellement, je n'y comprends plus rien. C'est quelqu'un qui est arrêté à Hong Kong apparemment, qui est signalé là-bas et il n'y a aucune transmission aux autorités françaises.
Non, aucune. Ces informations qu'on est en train...
Comment l'expliquer, maître?
C'est malheureusement l'absence de coopération internationale et puis la particularité du lieu de destination qui fait qu'on apprendra qu'au mois d'octobre 2019, les informations que nous sommes en train d'évoquer ici, c'est-à-dire finalement le fait que quelques semaines, voire peut-être même quelques jours après le meurtre de Jean Meyer, Karim Ouali était à Hong Kong. On apprend, et ça c'est une certitude, qu'il y était en tout cas au mois de mai 2011. On y apprend qu'il y a séjourné, qu'il y a voyagé sans aucune difficulté. Les enquêteurs ont mis en évidence pas moins de 12 voyages qui ont été effectués, à la fois en avion, mais aussi en train. Il s'est retrouvé à Macao. Et le plus extraordinaire, c'est que, et c'est la raison d'être de son incarcération en août 2014 à Hong Kong, c'est qu'il voyage, ce faisant, avec un passeport dont il a uniquement modifié la première lettre de son nom. Ça n'est plus Ouali, c'est Kuali. Il a changé le O en un Q, qu'il a tout simplement mis lui-même le petit trait qui permet de modifier cette lettre.
Il a ajouté la petite queue, oui, etc.
Qui a permis de modifier la première lettre. Ouais. Et c'est avec ce titre qu'il va voyager, sans aucune difficulté. Et quand les autorités d'Hong Kong vont s'en apercevoir, ils vont l'incarcérer au mois d'août 2014. Évidemment, il en est depuis sortie. Nous n'avons, à vrai dire, plus trace matérielle et physique depuis 2016. Et toutes ces informations-là ne vont être portées à la connaissance des enquêteurs et du juge d'instruction qu'au mois d'octobre 2019.
Est-ce qu'on sait mettre ce qu'il a raconté aux autorités de Hong Kong pour expliquer que peut-être il avait rajouté un petit trait?
On a très peu d'informations, à vrai dire, sur son séjour, en dehors de celui des informations que j'évoquais, c'est-à-dire la facilité avec laquelle il a pu se mouvoir, et puis aussi la probabilité assez certaine qu'il ait pu refaire sa vie sur le continent asiatique.
Alors, un mot là-dessus, puis après je viendrai à vous, Lionel Feuerstein, mais un mot là-dessus quand même sur cette nouvelle famille réorganisée autour de Karim Wali. C'est vrai, c'est faux, ça a été communiqué, je crois, à la partie civile.
Oui, le magistrat instructeur a souhaité évidemment faire un point avec les parties civiles que je représente pour les informer de ce qui est une évolution évidemment extrêmement importante, pas loin de 10 ans après la commission des faits. Beaucoup de proches avaient été placés sur écoute, beaucoup d'investigations ont été menées. Et le magistrat instructeur a pu effectivement démontrer, alors ça n'est pas une certitude, mais raisonnablement, on peut en effet penser qu'il existe des éléments suffisamment tangibles pour démontrer qu'il a refait sa vie sur le continent asiatique, qu'il a une compagne et qu'il aurait un enfant, à l'époque en 2019, âgé de 5 ans. Ce sont les différentes informations communiquées par des proches et les recoupements faits par les enquêteurs qui permettent de le déterminer.
Dans tous les cas, sous un faux nom, évidemment.
Oui, bien sûr.
Il ne porte plus le nom de Wali, de toute évidence.
C'est une des choses que l'on ignore aujourd'hui. C'est ce qui motivait le magistrat et les enquêteurs à vouloir se rendre notamment sur place. Qu'il est raisonnable de penser qu'aujourd'hui, il vit sans doute là-bas et assurément sous une identité d'emprunt, ça c'est clair.
Lionel Feuerstein, notre deuxième invité ce soir dans l'heure du crime, on vient d'entendre Maître Damien Legrand qui a abordé le sujet des fameuses écoutes qui auraient été placées sur la famille de Karim Wali. Qu'est-ce qu'elles ont donné, ces informations, ces écoutes? Parce qu'il est supposé aussi que la famille aurait pu être complice de cette fugue, de cette cavale.
Alors... pas vraiment en état du dossier, puisque effectivement la famille a été placée sur écoute, il y a eu des fouilles chez le frère, chez la sœur, notamment un ordinateur portable de Karim Wali a été retrouvé, la mère a été également placée sur écoute, j'ai essayé de la joindre mais évidemment elle ne souhaite pas s'exprimer, mais vraisemblablement il avait un peu fait la coupure avec sa famille. Donc toujours dans ce côté un peu solitaire du personnage, il s'était un peu éloigné de sa famille, donc a-t-il des complicités dans sa famille? C'est impossible de le dire. A priori, en l'état du dossier, je parle sous le contrôle de Maître Damien Legrand, non, non.
Seule certitude dans ce dossier, Karim Wali est bien vivant et a réussi à se fabriquer une nouvelle vie. Autant d'éléments précieux pour les autorités françaises, l'espoir de pouvoir peut-être resserrer l'étau autour du fugitif. Karim Wali, le Joker, l'assassin présumé, se cache-t-il à Hong Kong? L'enquête de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL.
Ce soir dans l'heure du crime, la cavale de Karim Wali. Presque 10 ans que l'assassin présumé du responsable de la tour de contrôle de l'aéroport Mulhouse-Bâle-Fribourg nargue depuis l'Asie, les autorités françaises et la famille de la victime. Depuis toutes ces années, la veuve de Jean Meyer, Nelly Meyer, mène un combat de longue haleine. Elle se bat pour que l'assassin présumé de son mari, Karim Wali, soit présenté à la justice et que la mémoire de son époux soit respectée. En 2019, toute petite avancée, le tribunal administratif a condamné la Direction Générale de l'Aviation Civile, la DGAC, à verser une indemnité à la famille. La DGAC est reconnue fautive de n'avoir pas désactivé le badge de Karim Wali alors qu'il était en congé maladie, lui permettant ainsi de conserver un accès à la tour de contrôle. Nelly Meyer regrette que son mari ait été oublié par les autorités françaises depuis 8 ans, dit-elle. La DGAC a fait comme si tout cela n'avait pas existé. Il n'y a pas un seul geste de leur part, ni pour moi, ni pour notre fille qui avait 4 ans au moment des faits. La justice française ne semble, elle, pas entretenir beaucoup d'espoir de faire interpeller Karim Wali à Hong Kong ou en Chine, tant les conventions judiciaires semblent compliquées à faire appliquer. Il y a quelques mois, la procureure de Mulhouse, Edwige Roux-Morizot, indiquait que si Wali demeure présumé innocent,
tout converge bel et bien vers lui. Se pose donc clairement la question de la fin de la procédure et celle d'un éventuel procès. Procès qui se tiendrait donc en l'absence de l'accusé, une procédure de défaut criminel, héritière de l'ancienne contumace, à moins que d'ici là, Karim Ouali, l'insaisissable joker, soit enfin rattrapé. Maître Damien Legrand, notre invité ce soir dans l'heure du crime, vous êtes, je le rappelle, l'avocat de la partie civile, la famille de la veuve de Jean Meyer, la victime, une veuve aujourd'hui un petit peu perdue sûrement, un petit peu esseulée, qui je crois, vous l'avez dit, mais il faut le redire, a écrit plusieurs fois au président de la République sans réponse.
Oui, elle a écrit plusieurs fois parce qu'elle est plongée naturellement, comme l'ensemble de la famille, dans un profond désarroi. C'est la justice qui est confrontée à ses limites tenant à l'absence de coopération internationale. Elle a écrit à plusieurs reprises au président Macron, une première fois, je l'ai dit tout à l'heure, pour demander le bénéfice de la Légion d'honneur à titre posthume, et puis une autre fois aussi, et surtout, pour demander une intervention, évidemment, pour accélérer le processus d'extradition, puisque nous sommes aujourd'hui dans une situation très particulière. On localise, ou en tout cas on sait à peu près où Karim Ouali se situe, mais on ne peut pas, en raison des défaillances de l'instrument diplomatique, aller le chercher ou peut-être même déplacer les enquêteurs, voire la juge d'instruction sur le territoire hongkongais. Et donc le président Macron, bien sûr, a répondu à cette lettre en disant qu'il ne pouvait pas s'immiscer dans le processus judiciaire parce qu'il était garant, évidemment, de l'indépendance de la justice. Et cette lettre a été transmise au garde des Sceaux. Donc nous espérons, bien évidemment, que cette procédure connaisse des suites et qu'on puisse, malgré tout, pouvoir obtenir le bénéfice de la justice que nous appelons de nos voeux depuis maintenant près de 10 ans.
Vous relancez ce soir cet appel auprès du garde des Sceaux, hein, d'activer finalement ce dossier qui
c'est
dort.
C'est tout l'intérêt de votre émission, et je vous en remercie. C'est tout l'intérêt, évidemment, c'est de relancer l'intérêt sur ce dossier. Je rappelle d'ailleurs que même la BBC locale à Hong Kong s'y était intéressée et envisageait à l'époque un appel à témoins, voire un appel à témoins monnayé pour essayer d'accélérer les choses. Évidemment qu'aujourd'hui, on appelle les autorités à pouvoir relancer le dispositif diplomatique pour enfin permettre que cet homme qui est localisé puisse être rapatrié en France et qu'on ait un procès qui soit autre que celui qui est effectivement évoqué, qui pourrait être une issue, mais qui est une issue qui n'est pas satisfaisante.
Et qu'en pense justement Mme Meyer de cette possibilité d'avoir un procès, encore une fois, en l'absence de l'accusé?
Bien sûr, ça n'est rien d'autre finalement qu'un ersatz de procès. Ce qu'on espère avant tout, c'est qu'il puisse être appréhendé, qu'il puisse expliquer son geste, qu'on ait enfin un visage à mettre sur le geste qui a été commis, qu'on puisse aussi connaître les réelles motivations. C'est extrêmement important pour cette famille qui souffre depuis maintenant près de 10 ans, de savoir si Jean était effectivement visé, si au contraire il était là uniquement à l'improviste et que manifestement il aurait peut-être empêché la commission d'un acte beaucoup plus grave. Ce sont des réponses qu'on attend. Et malheureusement, un procès sans accusé ne nous permettra pas évidemment d'avoir ces réponses.
Lionel Feuerstein, on l'a dit, la justice française a eu l'intention de se déplacer à Hong Kong. Ça a été, on n'était pas très loin d'ailleurs d'y parvenir à un moment donné. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, un, pourquoi on n'y est pas allé? Et deux, est-ce qu'il y a encore une possibilité, une ouverture pour que ce déplacement judiciaire, mais très important, se fasse?
Ça paraît assez compliqué quand même. Vu le climat politique qui régnait à Hong Kong ces 2 dernières années, vous rajoutez la pandémie actuelle, c'est pas quelque chose qui pourra se faire dans les prochains mois. Moi, j'ai eu la procureure de Mulhouse en ligne et elle me dit que l'enquête se poursuit à l'heure où on parle et pour l'instant, il n'est pas question de procès. Donc ça se poursuit. Le juge d'instruction pourra-t-il se rendre sur place à Hong Kong avec les autorités chinoises? Ça paraît quand même compliqué.
Parce que concrètement, ça amènerait quoi finalement de se déplacer? C'est très important parce qu'on...
Oui, évidemment, d'un point de vue juridique, d'abord il y a une commission rogatoire internationale qui est délivrée avec un mandat d'arrêt, donc ça permettrait alors soit d'appréhender Karim Ouali et puis de le faire extrader en France, soit de procéder à tout le moins à son interrogatoire pour savoir quelles sont les motivations qui ont guidé son geste. D'abord, évidemment, savoir s'il reconnaît le geste qu'on lui présente. prête, et puis ensuite savoir les raisons qui l'ont poussé à le commettre. Mais dans l'absolu, ce que nous souhaiterions, c'est que les autorités hongkongaises prennent la décision d'extrader Karim Wali pour qu'on puisse le présenter devant ces juges naturels, qui sont effectivement des juges français.
Et ça, c'est essentiellement une question diplomatique.
C'est une question diplomatique.
Hein, c'est ça.
Il y avait un accord d'extradition qui devait être signé et qui, au mois d'août dernier, n'a pas été ratifié par la France, puisqu'il emportait pour contrepartie, en gros, que l'on concède un certain nombre de choses sur des ressortissants concernés par la protection des droits de l'homme, et la France, évidemment, s'y est refusée. C'était, en quelque sorte, une logique de donnant-donnant auquel nous n'avons pas donné suite et que les autorités ont refusé. Donc, en l'état, je rejoins Lionel sur le fait de dire, en l'état actuel des choses, malheureusement, la situation est un peu figée.
Mais sans que l'on sache à 100% si Karim Wali est encore à Hong Kong.
Bien sûr. Il peut avoir bougé, parce que vous l'avez dit très bien, hein, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. Depuis, la trace peut-être perdue
bien entendu.
À tout moment. Dans tous les cas de figure, c'est une histoire tout à fait Lionel Feuerstein extraordinaire. Une cavale de ce type.
C'est assez unique. On pense évidemment à Xavier Dupont de Ligonnès.
Oui. Et lui, il n'y a pas de trace.
Mais il n'y a aucune trace.
Lui, il n'y a pas de trace.
Et là, Karim Wali, c'est vrai qu'il a réussi à échapper à toute l'enquête, à tous les policiers qui le suivaient depuis des années. Il n'a pas refait parler de lui, il n'a pas commis d'erreur encore. Il n'a pas contacté ses amis, sa famille. Il semble pour l'instant évaporé, ou en tout cas tranquille en Asie.
Maître Legrand, qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui pour la famille Meyer, et notamment sa veuve Nelly Meyer ?
Ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas savoir très précisément quelles étaient les motivations de Karim Wali, parce que nous pensons profondément que Jean a eu un geste héroïque en empêchant Karim Wali de commettre un drame beaucoup plus important, je l'ai dit tout à l'heure. Et ce qui est dramatique pour la famille, c'est de ne pas avoir de réponse à cette impression, à ce sentiment qui n'est pas un sentiment diffus, hein, c'est un sentiment qui s'est forgé évidemment avec la lecture du dossier, la lecture des pièces. Et nous voudrions que Jean soit reconnu légitimement comme étant un vrai héros qui a empêché la commission d'actes beaucoup plus graves. C'est ça qui fait mal aujourd'hui à la famille, de ne pas savoir quelle étiquette, en gros, pouvoir lui accoler.
Le plus dur, donc, c'est le silence pour la famille. C'est ce que vous dites, Maître Damien Legrand. Bien, grand merci ce soir d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Merci aussi, Lionel Feuerstein, d'être venu dans ce studio de l'heure du crime ce soir, consacré à la cavale de Karim Wali, assassin présumé d'une victime dont il ne faut pas oublier le nom. Et le répéter, Jean Meyer. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard, et à la préparation Marc Bisset. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime.